10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois en direct jusqu'à 16h pour partager vos expériences de vie. Je suis comme chaque jour, accompagné de ma charmante camarade Ombline. Comment allez-vous ?
Bonjour, ça va bien ? Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour, pendant cette heure nous parlons de vous, comme vous le savez, de ce que vous vivez, de ce qui vous anime dans votre vie, de votre vécu, car il nous intéresse. Plus de 10 millions de Français travaillent en horaire décalé aujourd'hui. C'est ce que révèle une étude du ministère du Travail. Ils travaillent de nuit, commencent leur journée à 4h du matin ou terminent tard, à l'heure où d'autres se couchent. Alors, des horaires atypiques, ça a ses avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Comment avoir une vie sociale? Quel impact cela a sur la vie de famille ou la vie de couple? Quelles répercussions sur la santé aussi? Alors, travailler en horaire décalé, quelles conséquences sur votre vie? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et que vous soyez chez vous ou au travail cet après-midi, n'hésitez pas à témoigner au 3921, le standard d'Europe 1. Vous pouvez également nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 ou Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Katel sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Katel.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour, j'étais prêt après à vous appeler Katel, parce que c'est la prononciation, mais on vous appelle bien Katel, c'est ça?
Oui, c'est bien Katel. Ça signifie Catherine en fait, c'est un prénom breton.
D'accord, très bien. Très joli prénom breton alors Katel. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, je vous appelle du Finistère et j'ai 46 ans.
Oui. Alors, vous êtes éducatrice spécialisée hein, dans un internat. Vous travaillez auprès de personnes en situation de handicap. En quoi consiste votre travail exactement?
Alors, mon travail consiste à accompagner des personnes qui travaillent justement dans un milieu protégé. Et moi, je fais avec toute l'équipe, on s'occupe de toute la partie hébergement pour favoriser leur autonomie au maximum,
oui.
Et pour les aider à accomplir les actes de la vie quotidienne.
D'accord.
C'est
une vocation pour vous, ce poste, ce travail que vous faites chaque jour?
Quand j'étais petite, je disais à mes parents que je voulais être gardienne d'enfants. Je voulais en fait m'occuper des autres. Je suis dans une famille un petit peu sociale. En fait, mes parents, ma sœur aussi fait du social.
Oui.
Donc, ça allait de soi que je travaille dans ce milieu-là.
Oui.
Après, c'est vrai que entre assistante sociale et éducatrice spécialisée, c'est vrai que je me retrouvais un petit peu plus au niveau de l'accompagnement au quotidien avec des personnes en situation de handicap. Je m'y retrouvais un petit peu plus.
Mmh. Avec donc des horaires très particuliers.
Par contre, voilà.
Puisque vous travaillez de 7h à 12h. De 14h à 22h30, hein, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. En gros, c'est un petit peu ça, et notamment aussi un week-end sur deux.
Et ça change tout le temps, ces horaires? C'est tout le temps...
Alors, c'est sur un planning de 4 semaines, en fait, c'est déroulement de planning sur 4 semaines.
Oui.
Donc le planning est fixe, a priori, il est assez fixe, malgré tout. Et donc il y a des semaines où je travaille plus du matin, d'autres plus du soir. Effectivement, c'est pas forcément évident pour la vie personnelle.
J'imagine que ces horaires vous demandent une organisation particulière, en tout cas importante. Vous avez commencé ce métier lorsque vous n'aviez pas d'enfant. C'était plus facile à gérer quand vous n'aviez pas d'enfant?
C'était plus facile parce qu'on est beaucoup plus libre. J'ai envie de dire, pas d'enfant et pas de mari, en fait, pas de vie de couple.
Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, les deux à la fois.
On n'a pas de... Quand on n'a pas de vie de couple, ou de vie familiale, on se couche quand on veut, on se lève quand on veut. Donc je me levais. J'ai l'habitude de me lever aussi en décalé. Parce que en même temps, le métier a évolué et il y a eu une époque où on travaillait, en fait, les éducateurs faisaient la nuit. Donc on avait besoin de les nuits de sommeil à la maison et les nuits de sommeil au travail ne sont pas forcément les mêmes et donc du coup j'avais besoin beaucoup plus de me reposer Voilà. Et
lorsque votre fils est arrivé, en fait.
Lorsque mon fils est arrivé, en fait, ça a été une gestion un petit peu
décalée, je suppose, ouais.
Particulière, ouais. Parce que, en fait, déjà, il a fallu trouver une assistante maternelle, chose qui n'a pas été très simple. Parce que les assistantes maternelles ne se, enfin pas toutes en tout cas, s'accordent sur des personnes
qui ont des horaires normales,
qui ont, ouais voilà, c'est ouais. Ça. Et notamment les services tels que les crèches et compagnie ne sont pas forcément ouverts aux mêmes heures, enfin aux heures pour les personnes qui ont
qui
des horaires décalés.
Décalés. D'autant plus que je crois savoir que votre mari est menuisier et que lui aussi vit aussi des horaires décalés et que c'est particulièrement contraignant pour votre pour l'organisation de la maison.
Oui, c'est clair, c'est clair. Mmh. Et en fait, c'est pas simple à gérer. En fait, on a un outil indispensable dans la famille, c'est l'agenda. Parce que il permet en fait d'organiser au mieux la vie de famille. Parce que bien que je travaille depuis 10 ans, en fait, mon mari n'a pas forcément compris encore le rythme de mon travail.
Ouais.
Donc parce que c'est un petit peu
C'est compliqué. Je suppose que en fait, voilà, on est bien loin dans la menuiserie de votre mission, de votre travail, mais aussi bien que voilà, vous êtes loin de la menuiserie aussi et que vous utilisez un agenda aujourd'hui. Hein, c'est vrai que les technologies nous permettent d'avoir un agenda. Vous savez, le partage familial. Est-ce que vous utilisez
ça ? Non, c'est pas ça. Moi, je suis restée à l'agenda basique papier crayon.
Bon, et ça marche comme ça.
Voilà, mais ça marche comme ça. Donc voilà. Après, il faut trouver des outils adaptés et qui fonctionnent bien dans la famille.
Katel, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de votre quotidien, de vos horaires et des conséquences positives comme négatives que ça a pu avoir sur votre vie.
Europe 1. Avoir des horaires de travail atypiques, vous connaissez. Alors, avantages ou inconvénients, le 3921 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Et vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait.
Comme Dominique, vous rentrez du travail, personne ne vous attend. Il faut dire qu'il est 4h du matin ou il est 23h. Vos horaires de travail sont atypiques. Quel impact ça a sur votre vie, sur votre santé? Vous êtes avec Olivier Delacroix, le 3921, pour nous raconter.
Et nous sommes toujours en ligne avec Katel, qui nous expliquait qu'avec son travail d'assistante, en tout cas avec les personnes handicapées, eh bien, ses horaires en décalé étaient plus faciles à gérer lorsqu'elle était célibataire. Et puis qu'avec l'arrivée de son fils et d'un mari, c'était beaucoup moins facile. Katel, vous dites qu'avec ses horaires de travail, le couple doit être solide. Qu'entendez-vous par là ?
C'est pas que la vie de, enfin oui, la vie de couple doit être solide et la vie familiale aussi, parce que il faut pouvoir aussi s'accorder du temps ensemble et en famille.
Oui.
Voilà, parce que on vit en heure décalée, mais quand on rentre, la famille est couchée. Des fois, quand on se lève, la famille est aussi couchée. Donc voilà, et c'est un petit peu compliqué. Et puis, la vie familiale aussi doit être solide, parce que c'est l'enfant qui doit s'adapter au rythme des horaires décalés des parents.
Ouais.
Moi, je peux pas forcément aller tous les soirs chercher mon enfant à l'école. Je peux pas forcément aller à tous les réunions des parents. Donc du coup, j'ai une organisation avec la maîtresse qui fait que je suis hors temps. Hors temps scolaire ou hors temps de réunion parfois.
Mmh. Vous vous sentez quand même entendu, accompagné? Par exemple, vous prenez l'exemple de l'institutrice, elle comprend tout cela, vous sentez qu'elle vous aide?
Il y a beaucoup d'écoute de la part de l'école. En fait, dès le départ, en fait, à chaque rentrée, je précise que je suis éducatrice en hébergement et que du coup, j'ai des horaires décalés. Voilà, ça n'empêche pas mon fiston de faire ses devoirs. Il n'y a pas de souci.
Quel âge il a, le fiston ?
Par contre, il a 8 ans.
8 ans. Est-ce qu'il vous arrive de culpabiliser vis-à-vis de lui? Justement, vous évoquez le fait que vous ne puissiez pas aller le chercher à l'école, que lorsque vous rentrez parfois, eh bien, toute la famille dort. Est-ce que ça crée de la culpabilité, ça? Est-ce qu'à un moment, on se dit que le travail prend le pas sur ce qui devrait être le plus important, mais que nous sommes beaucoup à vivre, hein. Nous sommes beaucoup à travailler en horaire décalé.
Oui, c'est clair. Je suis pas la seule.
Ben oui.
La culpabilité, c'est surtout entre l'amour du travail que j'ai, parce que ça me plaît énormément ce que je fais, mm-hmm. et puis l'amour de ma famille, tout simplement, avec un enfant que j'aurais voulu mieux accompagner, c'est-à-dire être plus présente auprès de lui quand il rentre de l'école, quand il a quelque chose à me raconter, quand il a un petit bobo sur le cœur. Donc voilà, il va plus se tourner vers son père parce que son père est présent au moment où je suis absente.
Ouais.
Mais j'ai l'impression parfois de manquer des moments clés avec lui.
Mmh. Est-ce qu'il vous arrive à reprendre des horaires normaux pour encore, il a 8 ans, donc il est tout petit encore.
Ouais.
Enfin, tout petit. Il vous reste encore plein de moments importants, clés à vivre.
Oui, c'est clair. Mais le souci, c'est l'éloignement géographique et puis des postes d'éducateurs spécialisés qui ne courent pas non plus les rues. Donc voilà. Après, le travail au quotidien, il me plaît bien. C'est juste le fait de ne pas être ensemble qui est un petit peu plus compliqué, quoi.
Si ces horaires décalés, donc, qui sont liés à votre métier, vous obligez, par rapport à votre famille, hein, à arrêter, ça mettrait peut-être en péril l'équilibre de votre couple, finalement. Par manque de travail, vous avez l'air de tellement dans votre travail que c'est une vocation. On sent que ça vous habite, ce métier. Donc l'arrêter, je sais même pas si ça vous a déjà traversé la tête.
Ouais, c'est sûr que je suis pas une femme de maison.
L'intérieur, ouais.
Donc je préfère être dans l'action, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me satisfait bien et dans lequel je me retrouve. Mm-hmm. Donc qui m'apporte beaucoup. Où je suis
équilibré. Vous avez, n'ayez pas peur du mot.
Ouais.
Bah oui.
Oui, oui.
On a le droit.
Voilà.
On a le droit d'aimer son travail. On a le droit de se retrouver et d'être équilibré parce que on a un travail qui nous prend, qui nous intéresse, qui nous passionne. Justement, dans ces horaires décalés, vous dites qu'il faut accepter l'aide extérieure. Expliquez-moi ça.
Oui, parce que, je trouve que c'est important d'avoir de la famille ou des amis un petit peu relais dans ça, qui puissent prendre le relais en fait dans ce manque de, pour mon fiston en tout cas, c'est important. Je sais que mes beaux-parents habitent juste à côté de chez nous, et c'est vrai que ça pallie un petit peu le manque maternel qu'il a, même si je suis pas forcément remplaçable. Mais c'est vrai qu'il trouve, je pense qu'il trouve son équilibre aujourd'hui par rapport à ça, même si des fois il me dit effectivement qu'il sature de pas passer
absence,
plus de temps,
parfois, ouais.
De mon absence pendant les repas, pendant les week-ends et tout. Mais c'est important quand on le peut surtout, mais de se faire aider, ouais.
Justement, c'est le conseil que vous donneriez à ceux qui vont se lancer là, qui s'apprêtent à se lancer dans avec de tels horaires. C'est l'organisation.
C'est l'organisation où il faut trouver en fait un équilibre entre le travail et les horaires atypiques et la famille. Et tout seul c'est l'enfant qui en pâtit un petit peu, parce que du coup on a l'impression qu'il passe vachement de temps à l'école et qu'il passe son temps qu'à l'école, et que du coup nous on passe plus de temps du tout avec lui, quoi.
Ouais. Mais je pensais en vous écoutant qu'une famille, c'est aussi une maman qui aime son travail, donc qui est heureuse. Donc une maman heureuse, ça fait aussi un enfant heureux. Une maman qui arrête son travail, ça peut tout faire basculer. Et visiblement, en tout cas, tout se passe bien. Et cet agenda, il a l'air de fonctionner là. Et puis il y a papa qui est là, menuisier, qui est plus là. Et ben cet enfant, pour l'instant, il s'adresse à papa quand il est là. Et puis je suppose que quand vous êtes là, il vous demande aussi beaucoup, et que vous partagez quand même du temps avec lui.
Alors après, il faut non plus être que dans l'organisation et dans la gestion de ce temps-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps et se poser avec son enfant.
Ouais.
Parce que quand on est là dans la gestion et l'organisation de la journée du demain ou de la semaine d'après, voilà, ça peut être aussi pénible.
Il ne faut pas que ça soit que ça, en fait. Oui, il faut. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut s'accorder du temps avec son enfant, un temps privilégié.
C'est ça.
Mmh. Merci beaucoup, Katel, de nous avoir fait partager votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Laurence Webel. Elle est chronobiologiste à l'INRS, un organisme de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels.
Et Aurore nous écrit sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 avec son compagnon. Ils sont chauffeurs routiers. Alors un extrait de son témoignage. Départ à 20h, direction 3 dans l'Aude, presque 500 km de route. À 4h40 du matin, j'ai fini ma journée. Je reprends dans 9h, j'espère dormir plus que 5 heures. Mon chéri a commencé lui à 10h30, fini à 2h30. Parfois, il se couche quand je me lève. C'est un boulot de dingue, mais on aime ça.
Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de faire une nuit avec une chauffeur routier. Et c'est un métier extrêmement fatigant, extrêmement pesant. Et que lorsqu'elle rentrait à la maison, eh bien, elle parlait aux enfants, elle préparait le petit déjeuner, tout ça. Donc, horaire décalé, mais maman toujours.
Présente, évidemment.
Europe 1.
Vous travaillez en horaire décalé, vous partagez avec nous votre expérience au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Lorsque je me lève le matin, il est déjà 2h de l'après-midi et j'ai mal dormi. Quelques minutes dans la salle de bain, j'ai déjà allumé mon ordi et c'est mal parti.
Voilà, se lever à 2h de l'après-midi, 14h du matin. Pour certains, quand on est décalé, la bande de TTC qui a mal dormi, c'est votre cas? Avec vos horaires de travail atypiques, comment arrivez-vous à vous organiser avec votre famille? Notamment, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Laurence Webel, chronobiologiste à l'INRS, organisme de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi. Bonjour, les accidents du travail surviennent fréquemment de nuit. Comment l'explique-t-on? On est moins vigilant la nuit?
Alors, on est en partie effectivement moins vigilant. C'est lié à un conflit. Le travailleur de nuit, il va être soumis finalement à un conflit entre différentes informations qui lui proviennent de l'environnement.
Oui.
Et ce conflit va aboutir à des désynchronisations de rythmes biologiques et notamment des désynchronisations de nos rythmes de vigilance, de notre rythme de performance, mais également des désynchronisations de plusieurs hormones qui vont aboutir à des pathologies. Et donc, les accidents du travail sont effectivement plus fréquents et plus graves lorsqu'ils surviennent la nuit.
Avoir des horaires atypiques, cela a aussi des conséquences sur notre sommeil, je suppose. Notre corps est-il fait pour vivre avec ce rythme-là d'horaire en décalé?
Alors non, l'être humain est fondamentalement diurne. On est fait pour vivre le jour et pour dormir la nuit, et c'est bien ça la source d'une grande partie des problèmes. Donc dans votre deuxième témoignage, effectivement, la personne a d'emblée cité « j'espère que je vais arriver à dormir au moins 5 heures ». Donc le sommeil, c'est effectivement le premier symptôme que l'on retrouve chez les travailleurs postés, les travailleurs de nuit.
Ouais.
Et on dit que finalement, ces travailleurs de nuit cumulent les effets néfastes d'altération de leur rythme biologique, mais également les effets liés à ce qu'on appelle la dette de sommeil, c'est-à-dire qu'ils ont un sommeil qui est réduit en quantité et en qualité.
Et alors justement, lorsque ce sommeil est réduit en quantité et en qualité, est-ce que les siestes sont recommandées ?
Oui, tout à fait. La sieste, particulièrement ce qu'on appelle la micro-sieste, qui est une sieste courte de 15-20 minutes,
est
particulièrement réparatrice, notamment en milieu de travail. Alors, c'est pas du tout dans notre culture en France, et pourtant, la sieste et la micro-sieste de 15 minutes en milieu de travail a des effets absolument bénéfiques en termes de restauration de nos niveaux de vigilance et de nos performances.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous faire profiter à nos auditeurs de mon expérience. Je peux dormir en tout cas n'importe où, sur une table, sous un bureau, n'importe où, mais 10 minutes, et ça peut me réparer, mais les 5 à 6 heures à venir, vraiment. Donc, ça n'est pas une légende que ces micro-siestes dont vous parlez, Laurence Webel.
C'est l'idée. En fait, il y a de grandes différences individuelles. On l'a entendu dans votre premier témoignage, avec des métiers et des gens qui trouvent un compte finalement à travailler la nuit, qui choisissent ce travail de nuit avec une vocation qui était clairement affichée par cette auditrice, liée au contenu du travail, au sens du travail qu'elle y trouvait. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que quand on parle du travail de nuit et de ses effets, tout clairement n'est pas le fruit de la désynchronisation biologique. Il y a aussi un cumul et des arbitrages complexes à faire, des tentatives de conciliation coûteuses dans la sphère privée et pour articuler cette sphère privée à la sphère professionnelle. Donc effectivement, une contrainte qu'on choisit va être mieux supportée, ça c'est clair, mais il y a également des différences individuelles liées à l'âge, au sexe, aux différences génétiques, voilà, et effectivement également des différences. On n'est pas génétiquement identique au niveau de notre sommeil, de notre qualité de sommeil, de notre besoin de sommeil, et on n'est pas identique non plus devant la résistance que l'on a à une privation de sommeil.
Et c'est vrai que vous avez raison qu'en France, nous n'avons pas cette culture de la micro sieste, parce qu'à chaque fois, je sais que moi, à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu le droit à des réflexions assez désobligeantes d'ailleurs, alors que finalement, je le faisais pour mieux travailler ensuite et que j'en avais besoin parce que j'étais carrément en train de piquer du nez et que j'en avais carrément besoin. Que doit-on manger quand on termine à 3h ou à 7h du matin? Est-ce que et que l'on doit se coucher derrière? Est-ce qu'il y a une alimentation spécifique, spéciale?
Alors, les diététiciens qui se sont intéressés à la chrononutrition s'entendent pour dire qu'il faut maintenir 3 repas principaux sur les 24 heures et s'accorder une collation la nuit. Alors, quand on parle de collation la nuit, on va avoir liée justement à notre fatigue, on va avoir une appétence, c'est-à-dire qu'on va forcément avoir envie de sucre, avoir envie de produits un peu gras, et justement, il faut lutter contre ça. Et la collation que l'on préconise la nuit, c'est une collation très protéinée, type jambon blanc, pain complet, plaies, œufs, fromage, pour tenir le coup. Il faut éviter absolument le sucre qui pourtant va nous attirer, parce que le sucre, ça va avoir un effet sur notre vigilance immédiat.
Et pourquoi, en fait? Parce que c'est vrai que la nuit, nous sommes plus à même et beaucoup plus tentés de consommer des matières grasses ou du sucre. Quelle explication y a-t-il à ça?
Alors ça, c'est lié. Alors ça, c'est lié à beaucoup de mécanismes hormonaux, à des mécanismes très très complexes, qui font que effectivement, fatigué, on va être attiré par ces aliments-là. Mais l'idée, c'est vraiment de pas surcharger notre collation la nuit, et c'est de la, si possible, de la combiner avec un repos, quoi. L'idéal, ce serait de prendre une collation protéinée plus une micro-sieste lors de notre pause au travail quand c'est possible. Alors, tous les métiers ne le permettent pas, évidemment. Quand vous êtes dans un service d'urgence médicale, vous ne pouvez pas vous arrêter quand vous le souhaitez.
Pas quand vous voulez. Voilà. Alors, justement, vous, en tant que médecin, et chronobiologiste, comment parvenir au bon équilibre entre son travail, sa vie sociale, sa vie de famille, sa santé aussi, lorsqu'on vit en permanence dans ces horaires en décalé?
Alors, on va pouvoir jouer sur les caractéristiques individuelles que je vous évoquais, à savoir se connaître, savoir si on est plutôt du matin, plutôt du soir, s'initier à la sieste pour récupérer un temps de sommeil. Mais on va aussi, surtout, pouvoir agir sur des caractéristiques qui vont être liées plus à l'organisation du travail. Ou par exemple, on sait aujourd'hui que si on organise le travail de façon à ce que et qu'on associe les salariés au choix de leur rythme de travail, de leurs horaires de travail et de leur... par exemple de la fréquence d'une rotation quand il s'agit de travail posté, mieux on va le supporter, ce travail. Pareil, si on prévoit des plannings assez longtemps à l'avance, si ces plannings sont stables, là aussi, ça va vraiment augmenter la tolérance que l'on va avoir au travail posté ou au travail de nuit. Et enfin, il y a des caractéristiques même du système horaire. Là, c'est un peu plus complexe parce que les études, notamment épidémiologiques, sont compliquées à faire. Oui. Mais on connaît actuellement certaines caractéristiques, comme par exemple la fréquence de rotation des postes, qui serait préférable si elle était rapide, c'est-à-dire tourner quand on est en travail posté plutôt toutes les deux nuits que faire des semaines continues
avec
où on a 4 ou 5 nuits consécutives.
Nuit.
Le sens de rotation qui majoritairement pour les gens qui sont majoritairement dans le sens matin, après-midi, nuit, ce qu'on appelle le sens horaire, est préférable pour la majorité des gens. Je mets quand même un bémol parce qu'il y a des gens qui sont vraiment du matin pour qui ça va poser problème. L'heure de prise de poste aussi, avec une prise de poste le plus tardif possible, un poste du matin qui démarre à 5h du matin, ça va être un poste du matin où vous allez vous couper de toute une partie importante de votre sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal et qui survient en deuxième partie de nuit et qui est extrêmement précieux en termes de récupération psychique notamment. Ouais, ouais. Donc il y a des caractéristiques même au niveau du système horaire qu'il faut mettre en débat dans les entreprises, au débat au niveau du CHS société, au niveau du CSE, mmh. Qu'il faut mettre en débat et qu'il faut absolument associer les salariés, les représentants du personnel à ces négociations.
Mais justement, Laurence Webel, je pense par exemple à mes collègues Mathieu Noël ou Nikos le matin, qui ont comme obligation d'être là tous les matins et de se lever l'un à 2h du matin, l'autre à 5h, parce que tous les matins, ils sont sur l'antenne d'Europe 1 très tôt. On va pouvoir continuer à discuter justement de quelles conséquences cela peut-il avoir sur ceux qui n'ont qui sont obligés de garder leur poste et de se lever tôt. Dans quelques instants, on va accueillir Julie, parce que justement, elle est infirmière et elle avait fait le choix de travailler nuit. Aujourd'hui, elle ne veut plus et elle travaille de jour.
Et le témoignage de Camille au 39-21, elle a 80 ans. Camille, elle nous a appelé de Bordeaux. Elle était infirmière avec son mari. Ils ont travaillé 23 ans de nuit à l'hôpital, en tant qu'infirmiers tous les deux. Lorsqu'ils travaillaient le jour, je travaillais la nuit, puis nous échangions. Tout était une question d'organisation.
Europe 1.
Vous aimez travailler en horaire décalé de nuit, le week-end, venez nous expliquer, ou au contraire, venez nous dire pourquoi c'est un supplice. Vous échangez avec Olivier Delacroix au 39-21. Comment c'est de travailler en horaire décalé, vous aimez? Ou au contraire, ça vous complique la vie sociale, vie de famille? Vous nous racontez, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21. Je rappelle que vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook, comme Carole qui nous dit « 12 ans de travail de nuit, je suis incapable de travailler le matin. Depuis très jeune, je suis décalée, j'ai pu allaiter mes enfants longtemps, ce qui est généralement plus compliqué avec des horaires de jour. Je dégage du temps pour faire d'autres choses, bien sûr, récupérer le manque de sommeil est parfois dur. »
Et nous sommes maintenant en ligne avec Cécile. Bonjour Cécile, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Bon, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Cécile?
Alors, j'ai 37 ans et j'appelle d'Orléans.
D'accord. Alors, vous Cécile, lorsque vous avez rencontré votre mari, il faisait les 3-8 dans une laiterie et il travaillait régulièrement de nuit. C'est quelque chose qu'il avait choisi dès le début?
Oui, enfin, choisi. Quand ça s'est proposé, oui, mais ça ne le dérangeait pas de travailler de nuit.
Mmh. Et ses horaires?
Au contraire, il trouvait ça plutôt... Alors, c'était...
Ça marchait comment, oui?
21h-5h.
C'est-à-dire, alors, 21h-5h, oui, il travaillait toute la nuit, en fait.
Ouais, il travaillait vraiment toute la nuit. Et puis, après, l'équipe du matin prenait le relais à 5h du matin.
Mmh. Et alors, vous, ça ne vous posait... pas de problème, en fait, parce que je compte, pour être à 21h au travail, il devait partir de la maison
à
20h.
À 20h, parce qu'il n'habitait pas à côté, en plus.
Mm-hmm. Ça faisait des journées courtes, quand même, pour vous. Parce que, est-ce que vous travaillez en même temps que lui, vous ne vous voyez pas beaucoup?
Alors, moi, je travaillais de jour.
Oui.
Et sur Blois. Donc, j'avais beaucoup de trajets aussi.
Oui.
Donc, on se voyait peu. Alors, au début de la relation, c'était pas tellement gênant puisqu'on est assez indépendants l'un de l'autre, donc voilà, on se voyait peu, bon, c'était comme ça. Après, ça a commencé, quand on a commencé à habiter ensemble, c'est devenu un peu plus pénible, on va dire, parce que je passais beaucoup de soirées toute seule, voilà. Les week-ends, c'est moins gênant, mais la semaine, ça devient vite long, quoi. Donc ouais, c'était un peu pénible.
Bon, et je comprends que ça soit pénible d'être seule. Mais je crois savoir que peu à peu, vous avez constaté que ces horaires atypiques avaient des conséquences sur l'humeur et la santé de votre conjoint. Lesquels exactement?
Il était donc évidemment très fatigué.
Oui.
Il était stressé, très irritable. Et puis ça avait aussi des conséquences par rapport à sa vie sociale. Parce que clairement, ses amis, au début, l'invitaient dans les soirées, etc. Et puis, comme il répondait toujours, ou très régulièrement, non, puisqu'il travaillait, au bout d'un moment, ses amis ne l'invitaient même plus. Donc, il avait quasiment plus de vie sociale. Ça l'embêtait beaucoup, beaucoup.
Oui, ça l'embêtait beaucoup, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il n'avait pas vraiment le choix, puisqu'il travaillait et visiblement était très fatigué.
Oui, exactement. Il y a un moment, il faut faire un choix, quoi.
Oui, on va voir. Et vous, dans votre vie de couple, votre vie de femme, elle était impactée par ces horaires en décalé aussi?
Oui, parce qu'on se voyait 1 à 2 heures par jour. Pour moi, on ne peut pas vraiment construire une vie de couple quand on se voit si peu et qu'on se croise surtout. Mm-hmm. Parce que le matin, il allait se coucher, moi je me levais. Donc c'était bonjour, au revoir, bonne nuit, bonne journée. Et puis le soir, on se croisait, on se racontait vite fait nos journées et il partait travailler. Donc, on n'avait pas forcément le temps de créer quelque chose. Donc on passait beaucoup, enfin on est passé à côté de beaucoup de choses, je pense.
Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pendant cette période-là, vous êtes passé à côté de choses, comme vous le dites, mais que il a décidé à un moment de changer de travail pour avoir des horaires fixes. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression de l'avoir retrouvé, puisque là maintenant vous passez des moments ensemble?
Alors, il y a pas photo. Alors, ça s'est un peu pris parce qu'on a décidé d'avoir des enfants. Donc, il s'est dit, moi, j'ai envie de les voir grandir. Donc, il a voulu changer de travail.
Ben oui.
Et depuis, oui, notre relation est très différente. On a une vraie vie de couple, quoi. Une vraie vie de famille, même, je vais dire. Et ça change tout sur lui, sur son humeur, sur sa fatigue, sur sa mémoire,
oui,
sur sa vie sociale, sur sa vie familiale. Enfin, ça a tout changé, vraiment. Vraiment, vraiment. Je pense que plus jeune, ça ne le gênait pas. Aujourd'hui, je pense qu'il ne se reverrait pas faire du travail de nuit.
Et aujourd'hui, quelle est la différence majeure que vous, que vous remarquez, en fait, à part, bien évidemment, les enfants, dans votre vie de couple, en fait? Quel homme est-il devenu? Parce que je suppose que ça a tout changé.
Bah, il est plus attentionné.
Oui.
Il est plus présent pour moi. Il est plus à l'écoute, ce qu'il n'avait pas forcément le temps avant. C'est vraiment la présence qui change, et puis l'écoute, la discussion. Mis à part les enfants, en effet, hein, c'est vraiment nous deux. On prend du temps pour nous deux. On peut partir en week-end tous les deux. On peut se faire des soirées au resto. Enfin voilà, ça change tout dans le quotidien, quoi.
Cécile, vous restez en ligne avec nous. Je me tourne vers Laurence Webel. Souvent, on ne choisit pas les horaires décalés. On entend Cécile parler de son mari, qui était donc dans une usine de laiterie, enfin en tout cas avec des horaires 21h, 5h du matin. Mais si le corps et l'esprit ne s'y font pas, que faut-il faire?
En général, ce qu'on remarque, c'est que quand le corps ne s'y fait pas, c'est qu'on s'en va. On essaye par tous les moyens, c'est ce qu'a fait finalement au bout de quelques années le mari de cette auditrice. On s'en va, et c'est ce qui nous pose d'ailleurs problème, dans le sens où quand on fait des études sur les effets à long terme du travail de nuit, on se retrouve avec les gens les plus résistants qui restent en place. Et donc ça biaise considérablement nos études épidémiologiques. Donc on essaye par tous les moyens de s'en sortir. Et effectivement, il y a des profils qui vont être beaucoup plus plus tolérant et beaucoup ou au contraire beaucoup moins tolérant au travail de nuit. Il y a un moment une auditrice qui disait je suis vraiment du soir, je suis pas du matin du tout. Les gens qui sont du matin vont très très mal supporter le travail de nuit et vont très mal supporter la dette de sommeil. Les gens qui sont plutôt de chronotype soir, eux auront beaucoup moins de problèmes. Donc c'est toute la complexité. Quand vous avez un système de travail type 2-8 qui fait alterner les pauses du matin et de l'après-midi, même sans nuit, le fait d'être du matin, c'est extrêmement compliqué d'aller sur une équipe d'après-midi qui nous fait finir à 21h, 22h et encore plus compliqué de faire la nuit.
Vous restez avec nous en ligne, Laurence Webel, vous allez continuer à nous accompagner de vos éclairages. Merci beaucoup Cécile pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1, et puis un baiser à la famille, puisque au mari et aux enfants. Et puis dans quelques instants, nous allons retrouver Julie, que nous avons enfin retrouvée, qui est infirmière, qui avant travaillait de nuit, et puis maintenant a choisi de travailler de jour.
Europe 1. Comme Cécile qu'on vient d'entendre, 39-21, votre conjoint, un proche, travaillait de nuit, mais aujourd'hui ce n'est plus concevable pour vous. Vous nous racontez au 39-21, vous travaillez en horaire décalé, pour nous écrire sur Facebook, la page Facebook d'Europe 1, le groupe de l'émission.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Ringo Starr des Beatles qui se rend compte en sortant d'une longue session d'enregistrement qu'il fait nuit. Voilà, Hard Day's Night, les horaires de travail, de jour, c'est pas votre truc, vous êtes décalé, venez échanger avec nous le 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et ces horaires décalés, ces heures de nuit, Julie et Nawel, que nous accueillons maintenant sur l'antenne d'Europe 1, les ont bien connus. L'une les a connus, Julie, mais nous allons d'abord accueillir Nawel, qui fait le même métier que Julie. Elles sont toutes les deux infirmières. Bonjour Nawel.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Vous, aujourd'hui, vous, à l'inverse de Julie, hein, qui travaillait de nuit avant et qui est maintenant de jour, vous êtes de nuit et
oui.
Ça ne semble pas se passer très bien. Expliquez-moi ça.
Eh bien, en fait, avant, je travaillais aux urgences où on faisait un espèce de roulement jour-nuit,
oui.
Qui était un peu chaotique parce que il y a toujours des problèmes, les cadres sont toujours débordés, donc ils ne savent pas vraiment gérer les plannings, mm-hmm. Mais ça se passait plutôt bien. Et en fait, en changement de service, on m'a proposé un travail de nuit parce que malheureusement, il n'y avait que ça en CDI, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui évitent le travail de nuit. Et sachant que moi, je suis jeune diplômée, ça fait 2 ans que je suis diplômée.
Oui. Quel âge avez-vous ?
Un emploi, 27 ans.
27 ans, d'accord.
Et du coup, j'ai accepté, mais en fait, ça fait 1 an que j'y suis. Et je suis épuisée, mon visage a changé, j'ai pris 7 kilos, j'ai de l'acné, je suis constamment de mauvaise humeur.
Quels horaires faites-vous exactement ? Vous commencez à quelle heure et vous finissez à quelle heure ?
Je commence à 19h15 et je finis à 7h15.
Ouais. Et ça, 5 jours de suite ?
Alors non, moi, je suis dans le privé, donc on ne fait pas les 5 jours de suite, on fait maximum 3 jours de suite.
Oui. Et vous vous arrêtez 2 jours et vous recommencez 3 jours, c'est ça ?
Exactement. On fait 3 jours, on s'arrête 2 jours, on recommence 2 jours, on s'arrête 2 jours. Enfin, c'est assez compliqué parce que souvent, le premier jour de repos, quand on travaille de nuit, ce n'est pas vraiment un jour de repos. Mm-hmm. Parce que c'est soit on dort toute la journée et on se réveille, on est totalement décalé, on n'a rien fait de notre journée, c'est hyper déprimant, ouais. On a tout loupé. Ouais, ouais. Ou soit on se force à ne pas dormir ou à dormir très peu. Comme je fais là aujourd'hui, j'ai travaillé
une nuit. Ouais. Et vous m'avez parlé de 7 kilos de prix, d'un visage qui change. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre santé pâtissait de ces horaires décalés ou est-ce que...
Clairement, il n'y a pas que moi, il y a même mon entourage. Enfin, tout le monde me... Enfin, j'ai un assez beau visage, j'ai un beau gros visage d'enfant, de bébé.
Ouais.
Mais les gens souvent me disaient que j'avais l'air en forme. Mais là, les gens me regardaient, me disaient que j'étais épuisée, que j'étais malade. J'avais beau mettre tous les anticernes du monde, ça ne marchait pas.
Mmh.
Donc, c'est horrible. On mange n'importe comment.
Oui.
Enfin, on mange en décalé. On mange à 3h du matin, à 4h du matin, quand on a le temps de manger.
Oui. Alors, j'ai pu passer un long moment avec des infirmières de nuit, justement, et urgence ou dans d'autres services. C'est vrai que vous avez une vie totalement en décalé, que c'est vrai qu'on ne mange pas aux mêmes horaires et que c'est un boulot extrêmement contraignant. On va en parler avec Julie, qui, comme vous, Nawel, a pratiqué ce métier de nuit. Et puis, aujourd'hui, elle est de jour. Bonjour, Julie.
Bonjour.
Quel âge avez-vous ? D'où nous appelez-vous, Julie ?
Alors, je vous appelle de Toulouse et j'ai 38 ans.
38 ans. Alors, combien de temps vous avez travaillé nuit, vous ?
Alors, moi, j'ai fait 6 ans de nuit, par choix.
Oui.
Voilà. Parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'étais assez insomniaque. Donc, je me suis dit, faire des nuits, ça va peut-être être, du coup, le... La bonne chose, finalement, autant mettre à profit ces insomnies. Voilà, j'ai tenu 5 ans. Au bout de 5 ans, j'étais passée à 50% de nuit et 50% de jour parce que j'avais eu un poste, enfin un poste. Je siégeais dans des instances type CHSCT.
Mmh.
Donc, j'alternais en fait le jour-nuit. Et alors là, à partir de là, ça a été...
une catastrophe.
Une catastrophe.
Alors, je
comme
sais.
Noël, moi j'ai pris beaucoup de poids aussi.
Vous avez pris 15 kilos. Vous avez pris 15 kilos.
Oui, c'est ça, 15 kilos.
Ouais. Ça a déterminé votre choix de changer et de passer de jour. Et est-ce que depuis que vous êtes passé de jour, la vie s'est totalement améliorée pour vous ?
Alors, je ne vais pas dire que la vie s'est totalement améliorée, mais par contre, j'ai un meilleur sommeil, quoi. Ça, c'est sûr. C'est, voilà. J'ai un sommeil qui est beaucoup plus récupérateur.
Oui.
Bon, je suis toujours infirmière, on a toujours des horaires atypiques, donc quand on est le matin, comme aujourd'hui, j'ai commencé à 6h30, j'ai fini à
14h30. C'est toujours du boulot, hein. C'est toujours du boulot,
voilà,
faut le rappeler.
La petite sieste, en rentrant, on l'apprécie.
Ouais. Mais est-ce que, sur ces 15 kilos, vous avez commencé, ça fait combien de temps que vous avez arrêté ?
Les nuits, ça va faire 2 ans.
Bon, et est-ce que sur les 15 kilos, vous avez commencé à récupérer un peu votre corps ? Est-ce que, voilà, parce que même alors, si le sommeil va mieux, l'alimentation va mieux, est-ce que on arrive à en revenir de... et puis bah, perdre petit à petit ces kilos ?
Alors oui, j'ai perdu un peu, j'en ai encore beaucoup à perdre, et on ne les perd pas aussi vite qu'aussi vite on les prend. Mmh. Je ne sais pas si c'est français.
Si. Mais en tout cas... Une chose est sûre, c'est que c'est sûrement plus simple. Quand on écoutait tout à l'heure Laurence Webel, qui est chronobiologiste, j'ai l'impression qu'en écoutant Nawel, en vous écoutant Nawel et en écoutant vous écoutant Julie, c'est que l'une comme l'autre, en fait, on voit combien le sommeil impacte le corps et puis surtout fait grossir à partir du moment où on ne mange pas aux bonnes heures, qu'on ne dort pas assez. Donc, 2 jours, Julie, ce qui est certain, c'est que ça ne va qu'aller qu'en s'améliorant, même si je rappelle que l'une comme l'autre, vous êtes infirmière, et j'en profite pour dire au passage que vous faites un métier formidable, mais que nos infirmières, eh bien, il faut y faire attention, il faut les payer mieux, parce qu'aujourd'hui, que ce soit de nuit comme de jour, eh bien, elles travaillent, et que un jour ou l'autre, nous serons tous confrontés à une infirmière, ne l'oublions pas. Merci mille fois, Nawel et Julie, en tout cas, d'avoir partagé une partie de votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Bertrand et Gisèle. Ils ont tous les deux un ressenti et un vécu des heures en décalé, mais on se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. Comment garder la forme, avoir une vie sociale quand on travaille en horaire décalé, ça vous concerne ? Comment arrivez-vous à vous organiser ? Vous composez le 39-21. Travailler en horaire décalé, quelles conséquences sur votre vie ? Vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et nous allons accueillir dans quelques instants sur notre antenne Bertrand. Mais avant, nous accueillons Gisèle. Voyez-vous ça ? Nous sommes plein de surprises sur Europe 1. Bonjour Gisèle, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous ?
Bonjour Olivier, je m'appelle Gisèle, oui. J'ai 60 ans et moi je témoigne en tant que grand-parent,
d'accord.
Que grand-mère.
Alors,
voilà.
Grand-mère d'un petit-fils qui a 37 ans aujourd'hui et qui visiblement avait des horaires d'un fils, d'accord.
D'un fils, voilà. Et je suis appelée à la rescousse quand le petit de 3 ans ben, ou ne peut pas aller à l'école ou il y a des problèmes avec la garde de 6h du matin à 9h du matin.
Parce que votre fils... a travaillé en horaire décalé et ça lui a coûté son mariage, hein.
Exactement, entre autres, bon, ça a participé, si vous voulez, à la rupture, moi je dirais, voilà.
Ouais, ouais.
Et donc maintenant, le problème, lui, en décalage, c'est qu'il fait une semaine, 5h30, il part de la maison, il revient à 15h30, 16h,
oui.
Et l'autre semaine, il commence donc à 15h pour revenir à 1h30, 2h du matin.
Ce qui doit être extrêmement compliqué à gérer pour un papa qui est en garde alternée.
Oui.
Voilà. Comment il s'entend avec son ex-épouse ? Ça va ou ça
oui,
bataille un
ça
peu ?
Oui, ça va très très bien. Bon. Non, ça va très très bien, heureusement, ça va très très bien.
Alors,
moi, ce que je trouve regrettable, c'est que cet enfant passe énormément de temps en dehors du foyer, je dirais.
Ben oui,
est de 7h30 à la garderie jusqu'à 18h30 qu'on aille le chercher.
Oui, mais on a entendu ça avec Catel au début de cette émission qui nous expliquait que voilà, il est certain que les enfants sont souvent victimes de ces horaires de travail en décalé. On va justement en parler aussi avec Bertrand. Bonjour Bertrand.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Bertrand ?
Eh bien j'ai 41 ans, j'appelle de la banlieue de Lille.
D'accord, banlieue de Lille. Alors vous Bertrand, les horaires décalés, vous les avez connus, vous les connaissez encore d'ailleurs parce que...
Bah écoutez, je les connais encore, oui.
Vous travaillez pas mal déjà ces horaires décalés, c'est de quelle heure à quelle heure, dites-moi ?
Alors bah, pendant longtemps ça a été 9h, 20h, 7 jours sur 7.
Ouais.
Dans les premières années de la création de ma société, ce qui n'était pas évident. Alors c'est un parc de jeux pour enfants, donc c'est forcément des horaires qui sont adaptés aux horaires des clients, j'ai envie de dire. Donc le parc est ouvert mercredi, samedi, dimanche, jours fériés, vacances scolaires,
ouais.
7 jours, enfin, toujours.
Et vous dites qu'aujourd'hui vous avez fini par vous habituer. Alors est-ce que c'est dû au fait que 9h, 20h, même si c'est long hein, Bertrand, hein, c'est quand même 2 jours.
Alors, oui et non, parce que c'est ouvert aux clients, et à côté, ben, il y a le rangement, le nettoyage, la préparation, l'administratif. Donc, pendant 3 ans, c'était toujours sur 7.
Mmh. Alors, on voit, vous vous êtes quand même habitué aujourd'hui?
Oui, alors c'est une question d'organisation essentiellement. Je me suis beaucoup reposé sur ma femme à un moment, jusqu'au jour où mes enfants grandissants ont commencé à s'exprimer aussi.
Mmh. On entend que vous avez fini par vous habituer à ces horaires en décalé et que au final, peut-être, on pourra y trouver une explication parce que elles étaient de jour et que même si 9h-20h c'est compliqué, peut-être que de jour on a plus de chances de pouvoir faire ces siestes dont Laurence Webel nous parlait tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup à Bertrand, merci à Gisèle de nous avoir fait partager une partie de leur vie, de ces horaires décalés, hein, même s'ils touchaient pour Gisèle son fils. Merci à Catel, merci à Julie, merci à Cécile, merci à Laurence Webel pour ses éclairages et ses analyses. Travailler en horaires décalés demande une sacrée organisation pour que la vie de famille ou de couple n'en pâtisse pas. Il faut aussi faire preuve de rigueur dans son hygiène de vie, tant sur le plan du sommeil que sur le plan de l'alimentation. On l'a vu, ce qui n'est pas toujours facile, notamment pour les infirmières qui sont souvent obligées de manger à n'importe quelle heure et puis quand elles ont le temps. Sinon, vous risquez, sachez-le, de vous épuiser à la tâche et cela peut être vraiment dangereux. Alors n'hésitez pas à consulter si vous sentez que ce rythme de vie vous fatigue particulièrement. Vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux.
Oui, n'hésitez pas à discuter entre vous sur Facebook, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram Olivier Delacroix officiel. Vous travaillez en horaire décalé et bien réveillé à 22h30. Vous pourrez échanger avec Sophie Peters sur la libre antenne d'Europe 1.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble du libre arbitre des enfants, mais surtout de ce que les parents les laissent faire ou non. Si vous voulez avoir un droit de regard sur toutes les décisions de vos enfants, si vous décidez tout pour eux, si au contraire vous les laissez faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils choisissent, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Demain c'est mercredi, c'est la journée des enfants, oui. Et on va parler du libre arbitre des enfants. Ma chère Ombline, j'étais ravi de passer cette heure avec vous.
Également.
Je vous laisse maintenant avec l'excellent Carl Zero. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va bien se marrer chez toi, Carl.
Eh bien, mon cher Olivier, aujourd'hui, j'ai deux tontons flingueurs inénarrables, San Severino et Patrick Peloux.
Carl Zero et ses tontons flingueurs, c'est à partir de 16h sur Europe 1. Quant à moi, je serai ravi de vous retrouver à 15h dès demain en direct. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée. Mm-hmm. Rendez-vous avec Carl Zero et ses tontons flingueurs à 16h. Au revoir.